Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis pas mécontent de démarrer un nouveau numéro de Culture Média avec vous. Au menu, médias et culture au sens large. Et dans le journal de la culture, on va tout vous dire sur les annonces faites hier par le Premier ministre Édouard Philippe au sujet du déconfinement dans notre domaine, dans les domaines qui vous intéressent. Qu'est-ce qui va rouvrir ou pas? Les concerts, les théâtres, les cinémas, mais également les disquaires, les librairies, les marchands de journaux, ce sera vers 10h10. On va également beaucoup parler cuisine aujourd'hui, mais également sexe et aussi musique. En gros, les trois fonctions vitales. Confinement, peut-on séduire sans changer de slip? C'est la question très sérieuse à laquelle Maya Mazorette répond dans sa dernière chronique dans le journal Le Monde. Journaliste spécialisée dans les questions de sexualité, on peut désormais la voir dans Quotidien où elle aborde le thème sexe et confinement, tout un programme. S'il y a un domaine que les Français redécouvrent en ce 43e jour de lockdown, non, c'est pas ce que vous pensez, c'est bien la cuisine maison. Le mensuel Cuisine Actuelle constate une hausse historique de son trafic depuis le début du confinement et nous serons avec Anne Gillet, sa rédactrice en chef. Vous apprendrez qu'une recette de pain maison a connu une hausse de trafic de 3500%. Enfin, la chanteuse Émilie Simon, elle sort un nouvel album en plein confinement et mieux, elle met en ligne chaque mercredi un morceau inédit et ça tombe bien, on est mercredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias maintenant. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin?
Ce matin, je vous parle de la crise qui fait vaciller les finances des groupes de médias, de la crise qui fait grimper les audiences, de la crise qui n'empêche pas TF1 de préparer sa rentrée et de la crise qui dynamise la consommation des podcasts.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision?
En ce moment, il n'y en a qu'une, c'est la une, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, large leader. Hier soir, 7,5 millions de téléspectateurs ont regardé ce troisième épisode de la série du sorcier à lunettes. France 3 est deuxième avec sa série Tandem, plus de 5,1 millions de téléspectateurs. Et France 2 monte sur la troisième marche du podium avec la rediffusion de son documentaire Félin. 2,5 millions de Français ont regardé ce formidable doc sur les félins. J'en faisais partie, j'ai adoré.
Et Cyril, hier à 15h, il y avait du Premier ministre à la télé.
Trois chaînes avaient modifié leur grille pour diffuser l'allocution d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, TF1, France 2 et M6. Ces trois chaînes ont rassemblé plus de 10 millions de téléspectateurs durant les 60 minutes de prise de parole du Premier ministre. Et c'est TF1 qui a rassemblé le plus de monde. Il y avait 5 600 000 Français devant la une pour regarder le Premier ministre. C'est plus de 30% de part d'audience pour la seule TF1.
Culture Média.
Cyril, on commence maintenant avec ce journal des médias avec, une fois n'est pas coutume, des résultats financiers.
Et si je vous en parle ce matin, c'est qu'on le sait, la crise sanitaire frappe de plein fouet les groupes de médias et qu'après avoir beaucoup entendu les dirigeants nous dire que leur situation financière allait être très difficile, les premiers chiffres nous parviennent. Hier soir, c'est M6 qui a publié les résultats financiers de son premier trimestre et les effets de la crise sont bien là, moins 9% de revenus publicitaires pour l'ensemble du groupe M6 par rapport au premier trimestre 2019. Un recul assez sensible, mais qui ne concerne que le tout début de la période de confinement, puisque ces résultats s'arrêtent au 31 mars, 15 jours donc, après les mesures sanitaires. Concernant ces chaînes de télévision, M6 révèle qu'au cours de cette deuxième quinzaine de mars, la durée publicitaire a reculé de 30%. Alors pour faire face, M6 a donc annoncé un plan d'économie global, dont 100 millions d'euros sur ces programmes, ça représente 20% de leur budget l'an dernier.
Situation paradoxale, alors qu'on le dit souvent, les audiences de la télévision n'ont jamais été aussi fortes et on le constate d'ailleurs également aux États-Unis.
Comme tout le monde, les Américains se gavent de télé en ce moment et se gavent notamment de sport. Nielsen, le médiamétrie américain, révèle une série de records d'audience. Par exemple, la chaîne ESPN a fait exploser les compteurs grâce à The Last Dance, le documentaire sur Michael Jordan et les Chicago Bulls. 6 millions de téléspectateurs pour la chaîne câblée, loin devant leur précédent record. Autre score à souligner, celui de la draft de la Ligue de foot américain. La draft, peut-être vous ne le savez pas, c'est le moment de l'année où les clubs pro vont faire leur shopping parmi les meilleurs jeunes joueurs universitaires. C'est un moment stratégique de l'avant-saison, toujours très suivi. Eh bien, la première soirée de cette draft a attiré plus de 15,5 millions d'Américains devant leur poste. Ouais. De manière plus globale, l'audience de la télé américaine devrait progresser cette année pour la première fois depuis 8 ans. Mais cette situation est bien exceptionnelle. Les analystes préviennent déjà que ces chiffres baisseront à nouveau dès 2021.
Et puis on reste dans le secteur de la télévision avec TF1 qui prépare sa rentrée.
Malgré la crise qui paralyse les tournages, le groupe TF1 révèle ce matin dans le Figaro qu'il sera bien au rendez-vous de septembre. Ara Aprikian, le grand patron des programmes, tient à rassurer ses téléspectateurs. À la rentrée, il y aura du Koh-Lanta tout neuf, le retour de The Voice Kids, des gros films de cinéma, des nouvelles séries américaines et bien sûr des fictions françaises inédites. TF1 espère également pouvoir reprendre au plus vite la diffusion de son feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Mais Ara Aprikian prévient également, comme M6 dont je vous parlais à l'instant, TF1 va devoir procéder à des économies massives pour absorber le choc dû à la crise sanitaire, des économies qui porteront notamment sur les coups de grille.
Hier, en direct dans l'émission, Denis Brognard nous annonçait qu'il se lançait dans le podcast et c'est bien vu car Cyril, vous nous confirmez la bonne dynamique de ce marché.
C'est une étude qui s'est penchée sur les habitudes des Français depuis qu'ils sont confinés. Et effectivement, Philippe, si les scores de la télé progressent, sur Internet aussi, l'écoute de la radio et des podcasts grimpe. C'est ce que révèle la start-up Audion, spécialisée dans la publicité audio numérique et le podcast. Kamel Eladef, le cofondateur de Audion, nous détaille les enseignements de cette étude.
L'enseignement principal tiré de cette étude est que l'écoute audio-digitale est en très forte hausse, notamment portée par les audiences du podcast. En chiffres, on observe que 83% des Français écoutent du contenu audio sur le digital et que le nombre d'auditeurs de podcasts a augmenté de 4% pendant le confinement. Alors évidemment, il y a plusieurs explications à ces chiffres. C'est notamment que les Français écoutent à nouveau de l'audio digital malgré la baisse des écoutes du début du confinement et qu'en l'absence de déplacement, les Français continuent à consommer. Et ça montre une chose, c'est que l'écoute audio digital et podcast est en train de s'ancrer chez les consommateurs et que le podcast doit son succès à une offre très large de contenu qui est adaptée à toutes les attentes et qui s'intègre facilement au quotidien des Français.
Une consommation qui augmente donc avec des centres d'intérêt qui varient en fonction des âges. La culture, par exemple, passionne les 55-64 ans. Un quart des 25-34 ans écoutent plutôt des podcasts pour enfants.
Donc c'est les parents.
Les jeunes... Oui, c'est souvent les jeunes parents, effectivement, vous avez raison. Les jeunes, eux, cherchent de quoi s'amuser et les femmes sont majoritairement en quête de contenu culturel. Durant cette période de confinement, les podcasts d'information restent, bien sûr, les plus consommés. Il n'y a qu'un genre qui peine à se faire une place, ce sont les podcasts de fiction. À peine 14% des personnes interrogées disent en écouter. Nous avons demandé au patron d'Audion ce qu'il fallait en tirer pour l'après-crise.
Pour l'après-confinement, je dirais que les principaux enseignements sont que le digital semble aujourd'hui le support numéro un pour écouter du podcast, de la musique ou encore de la radio, et que le podcast, lui, il séduit de plus en plus de Français. D'ailleurs, un chiffre qui est très révélateur est que l'écoute en ligne de contenus audio-digitaux a augmenté de 20% depuis le début du confinement, et on peut donc affirmer que l'audio-digital, aujourd'hui, ça devient très clairement un réflexe pour les Français, et que ces chiffres nous prouvent que ce marché est solide et qu'il croît malgré la crise. Les éditeurs, les podcasteurs, les publishers, ils ont donc intérêt à produire toujours plus de contenu de qualité car les Français, ils en consomment plus pour s'informer mais également pour se divertir.
C'était Kamel Eladef, le cofondateur d'Audion. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain évidemment pour un nouveau journal des médias. Culture Média qui continue dans un instant l'info média du jour. Nous serons avec Maya Mazorette. On la retrouve dans le journal Le Monde pour ses chroniques sexo. Et justement en ce moment, comment mêler, le verbe est bien choisi, sexe et confinement. On en parle avec elle juste après ça.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Confinement, peut-on séduire sans changer de slip? C'est la question très sérieuse à laquelle Maya Mazorette a tenté de répondre dans sa dernière chronique, Le sexe selon Maya, chronique publiée chaque dimanche dans les colonnes du Monde. Journaliste spécialisée dans les questions de sexualité, autrice, militante, féministe, mais également peintre et illustratrice, Maya Mazorette a déjà signé pas moins de 35 ouvrages, des essais, des romans, des BD. En janvier, elle a publié deux livres, Le sexe selon Maya, recueil de ses chroniques pour Le Monde aux éditions La Martinière, et Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. Bonjour Maya Mazorette.
Bonjour Philippe Vandel.
La question traditionnelle, comment allez-vous et où êtes-vous confinée?
Alors, je ne suis pas confinée parce que je suis expatriée aux États-Unis depuis 5 ans. J'habite à Brooklyn et désolé pour les auditeurs qui nous écouteront, je vais aller faire du vélo cet après-midi parce que j'ai le droit.
Voilà, Brooklyn à New York. Comment doit-on vous présenter? Le mot valise sexperte, ça vous va? Marie-Claire, le mensuel oui. Marie-Claire, vous a récemment baptisé Madame Sex carrément.
Oui, c'est en fait, le mot sexperte a été inventé il y a quelques années et au début je me suis dit mais j'ai pas le droit de me faire appeler de cette manière. Je suis pas sexologue, j'ai pas fait des études spécialisées, je suis seulement journaliste. Et puis finalement, je me dis que ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions, que je lis à peu près tout ce qui sort, que je lis des études en permanence et que, d'accord, moi ça me va finalement. C'est experte, c'est bien.
Ça allait être ma question. Depuis combien de temps vous écrivez sur le sujet? Vous avez répondu 15 ans. Et comment on devient s'experte? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce point, à ce sujet qui est un sujet absolument passionnant? Vous connaissez la fameuse phrase de Woody Allen. Quelle est la question? Je ne sais pas. En tout cas, la réponse est le sexe. Mais pourquoi vous intéressez-vous au sexe?
Mais moi, ça m'a toujours intéressé déjà quand j'étais enfant et adolescente, parce que le meilleur ami de mon père était sexologue et que je dormais dans sa bibliothèque quand j'étais en vacances. Mmh. Et ensuite, plus tard, en tant que militante féministe, eh ben, on est très vite en fait confronté à la question du genre, donc du sexe. Et quand j'étais en école de journalisme, j'ai fait l'école supérieure de Lille.
Ouais.
Je voulais déjà traiter des sujets sur la sexualité. Et à l'époque, c'était pas très bien vu. C'était considéré comme des sujets pas sérieux. Et en acceptant finalement de travailler pour Playboy, donc pour des médias qui n'étaient pas bien perçus par le public, je me suis vite finalement ouvert les portes de médias de plus en plus légitimes avec le temps. Et puis aujourd'hui, avec Le Monde en France et Le Temps en Suisse, c'est sûr que bah, y a moins de choses à prouver aujourd'hui. Et je pense qu'on a beaucoup souffert aussi du côté Sex and the City, avec des journalistes qui parlent que d'elles-mêmes, qui sont vraiment sur le côté anecdotique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres, c'est les grands chiffres. Et par exemple, avec la pandémie de coronavirus en ce moment, j'ai la chance de pouvoir traiter d'un sujet qui est universel.
Ah bah justement, on y vient. Vous tenez chaque semaine la chronique Le Sexe selon Maya dans Le Monde. Il paraît que c'est l'une des chroniques les plus lues du journal, puisque vous aimez les chiffres. Est-ce que vous avez les chiffres d'audience, les vues lues, comme on dit dans le métier?
Alors, j'y ai pas accès, mais c'est plusieurs centaines de milliers chaque semaine. Je crois que définitivement, les plus lues, elles ont été à 500 000 de lues.
Alors, j'explique aux auditeurs, auditrices, qu'on appelle les vues lues, c'est que dans la presse écrite, il faut qu'un papier soit vu, et une fois qu'il a été vu, il faut qu'il ait été lu. Et quand on a des bons vues lues, eh bien, on reste dans le journal la saison suivante. Actualité oblige, vous vous retrouvez étudier le sexe par temps de confinement, ça donne quoi? Est-ce que la promiscuité tue tout désir? Il faut réussir à créer de la distance tout en étant enfermés ensemble. C'est pas simple. Il y a quelques jours, vous avez délivré quelques astuces dans l'émission Quotidien, car vous êtes également dans Quotidien sur TMC.
Il y a le fait de respecter absolument la pudeur et l'intimité de nos partenaires en frappant à la porte avant d'entrer dans une pièce. Et en fait, donc, il y a plein de moyens de créer de la distance, comme par exemple de ne pas consommer les mêmes médias, pas regarder les mêmes films, faire ses apéros virtuels avec des amis différents pour avoir des choses à se raconter le soir, pour avoir l'impression qu'on n'a pas vécu exactement la même journée et pour recréer en fait une distance émotionnelle, sachant qu'on ne peut pas créer de distance physique.
Alors là, vous donnez des conseils. Depuis quand vous êtes dans Quotidien tous les vendredis?
Oh, ça fait seulement 2 semaines. Et normalement, c'est des métiers que je ne peux pas faire parce que j'habite à 6000 km de Paris. Et là, grâce au confinement, c'est terrible de dire ça, mais j'ai l'occasion enfin de faire de la télé.
Personne ne vous avait contacté ou c'est vous qui avez accepté de répondre aux demandes de la télévision à cause du confinement? Qui a appelé qui dans ce cas-là?
Ah, c'est eux qui m'ont contacté.
Ouais.
Moi, je demande jamais rien. J'ai déjà beaucoup de travail, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a envie d'entendre parler du sexe et du confinement. On voit bien que c'est un sujet qui, non seulement pour moi, génère des articles, mais aussi des articles de plein d'autres personnes. En ce moment, par exemple, je réponds beaucoup à la presse anglaise.
Ah oui?
Je parle avec le Télégraphe, juste après vous.
Sur quel thème? Est-ce que les questions des Anglais sont les mêmes que les nôtres, français?
En fait, les Anglais ont vraiment l'impression que nous, Français, on va avoir plus de problèmes avec le confinement parce qu'on est plus des obsédés sexuels, pardon. Donc la journaliste du Télégraphe me disait que eux ont la réputation d'être un peu plus conservateurs, un peu plus prudes, et donc ils sont très curieux de savoir si la France tombe en morceaux par absence de séduction, par absence de compliments, par absence de contact humain.
Vous avez répondu aux questions des lecteurs du Monde lors d'un chat qui est organisé mercredi 1er avril, c'était pas une blague. Quelles ont été les questions les plus fréquentes? Quelles sont les préoccupations des lecteurs du Monde?
Alors, ça va être un peu difficile à entendre. Les plus grands nombres de questions portaient sur la masturbation,
ouais,
et sur les personnes qui étaient confinées en couple. Donc il faut savoir qu'en fait, actuellement, il y a 20% des Français qui sont confinés tout seuls. Il y en a 42% qui sont confinés en couple. Et les 38% qui restent sont confinés en famille, donc de 3 personnes et plus. Et donc, la majorité des Français sont à deux. Et c'est vrai qu'il n'y a plus d'espace pour les plaisirs solitaires.
Ouais.
Ou alors, il faut que ça devienne des plaisirs partagés. Et étrangement, j'aurais pas cru, mais les lecteurs du Monde se demandait comment pouvoir se masturber tranquillement.
C'est pas vrai?
Et si.
Et quelle a été votre réponse, Maya Mazorette? Parce que c'est à ça que, à quoi vous êtes utile.
Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Soit on récupère des espaces de vie privée, d'intimité, en fermant la porte, comme je le racontais sur Quotidien. Soit on fait la masturbation autre chose qu'un plaisir solitaire. Et ça, c'est aussi des articles que j'ai publiés dans Le Monde il y a un petit bout de temps. L'idée complètement artificielle qu'il faille séparer les rapports sexuels avec pénétration qui sont à deux et la masturbation qui se fait tout seul, c'est parfaitement absurde. Donc, j'invitais les lecteurs du Monde à faire des masturbations partagées, à faire des masturbations guidées. Donc l'autre participe soit en regardant, soit en donnant des indications, soit en mettant la main à la pâte. Et qu'il y a plein de choses en fait à inventer à deux en justement décloisonnant la masturbation des rapports sexuels.
Vous parlez de lecteurs, il y avait aussi des lectrices. C'est quoi la part entre les hommes et les femmes? Est-ce que les deux sont aussi intéressés ou est-ce que les hommes sont plus enclins ou osent davantage poser des questions que les femmes qui sont traditionnellement, dit-on, peut-être est-ce un cliché, plus réservées?
Au niveau des messages que je reçois, parce que évidemment les lecteurs m'interpellent directement, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Facebook, je dirais que je reçois moitié-moitié entre les hommes et les femmes, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes préoccupations.
On n'a pas répondu à cette question. Peut-on séduire sans changer de slip? On retrouve Maya Mazorette, auteure des chroniques sexo du Monde et qu'on peut voir aussi tous les vendredis dans Quotidien. On marque une courte pause, il fallait ça.
Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Maya Mazorette, sa chronique Le sexe selon Maya fait les délices chaque dimanche des lecteurs et des lectrices du Monde. Et on peut la voir chaque vendredi dans l'émission Quotidien sur TMC. Il y a plein d'études sérieuses qui sortent en ce moment, comme cette enquête IFOP dont il ressort qu'un tiers d'entre nous ne prennent plus de douche quotidiennement et que 41% des hommes confinés en solo ne changent pas de slip tous les jours. Est-ce que ça vous parle cette enquête? Est-ce que ça a à voir avec un rapport à la sexualité? Pardon pour cette phrase parce que j'en suis troublé.
Oui, c'est un rapport avec la sexualité parce qu'on sait bien que les questions d'hygiène sont liées à des questions de désir. Le désir n'aime pas par exemple le dégoût. Et d'ailleurs sur les chiffres que vous venez de donner, on voit bien que c'est plutôt les hommes qui ne prennent plus douche et qui arrêtent de changer de slip. Ce sont les hommes plutôt seniors, plutôt chômeurs et plutôt célibataires, c'est-à-dire les personnes qui, a priori, sont tout seuls à tous les niveaux en ce moment, donc il n'y a pas d'enjeu. Les femmes continuent de changer de culotte tous les jours, je crois que c'est 95%, et continuent de prendre des douches. En revanche, ce sont les femmes qui subissent le plus les conséquences du confinement au niveau de l'estime d'elles-mêmes, puisqu'il n'y a que 12% des femmes en ce moment qui se sentent belles en France. C'était 22% avant le début du confinement.
Autre étude que je vais citer, une enquête Opinionway et BIC, qui est une marque de rasoir, 38% des femmes laissent repousser leurs poils et certaines abandonnent le soutien-gorge. Et vous écrivez, Maya Mazorette, pendant ce temps, les hommes réinventent la mode masculine grâce au fameux jogging costume-cravate. Est-ce que le lâcher-prise est compatible avec la sexualité? Vous posez la question, c'est une très très bonne question. Quelle est la réponse?
Alors oui et non, c'est-à-dire que le lâcher-prise, on sait bien que ça permet d'avoir plus facilement des orgasmes et que les femmes notamment sont victimes d'un syndrome qui s'appelle le spectatorisme. Ça veut dire que pendant l'amour, on se regarde comme si on était à l'extérieur, comme s'il fallait toujours avoir la pose parfaite.
C'est incroyable.
Être toujours très désirable.
C'est ce que Jean-Paul Sartre appelait la conscience esthétique de soi.
Et ben voilà, Jean-Paul Sartre avait inventé le spectatorisme. Et donc, on voit bien que là, en lâchant un petit peu du lasse sur l'apparence, et ben on va pouvoir se concentrer sur son ressenti, sur ses émotions. En revanche, on voit bien aussi qu'au niveau de la séduction, c'est un tout petit peu compliqué, et que quand on s'aime pas soi-même, quand on n'a pas l'impression de mériter la récompense qu'est l'orgasme, qu'est la jouissance sexuelle, eh ben on y va moins qu'avant. Au niveau des chiffres des rapports sexuels des Français, normalement, on les aura en début de semaine prochaine. Donc j'espère pouvoir vous raconter ça une prochaine fois.
Avec grand plaisir. Question, est-ce que ce confinement va renforcer les couples déjà solides et fragiliser ce qu'il était déjà? Est-ce qu'on peut s'attendre à un baby-boom dans 9 mois, en même temps qu'à une hausse des divorces, comme en Chine, où chaque tendance est exacerbée à la sortie du confinement?
Dans les chiffres que j'ai, 70% des Français estiment qu'il y aura plus de ruptures et de séparations à la fin du confinement. Au niveau du baby-boom lui-même attendu, du coup, c'est vraiment pas une certitude, et plutôt le contraire, parce qu'on estime qu'il y a un baby-boom seulement quand on fait face à des catastrophes de courte durée et de basse intensité. Et ouais, là, c'est une catastrophe de haute intensité, il y a énormément de personnes qui meurent, et de longue durée. Donc, a priori, il y aura pas de baby-boom, il y aura peut-être même un baby-crash, avec peut-être un effet de rebond quelques mois plus tard, quand on pourra enfin sortir.
Vous êtes à Brooklyn, je le rappelle, il y a des gens qui klaxonnent, oui, en bas de chez vous. partant de confinement, on peut pas se voir, mais la fréquentation des sites de rencontres augmente. Vous êtes d'accord avec ces chiffres? Est-ce qu'on prépare l'après ou est-ce qu'on a juste besoin de s'évader?
Alors les deux. Quand on regarde en fait par exemple sur un site comme Glidden qui fait des rencontres extra-conjugales, on voit qu'il y a 50% des nouveaux abonnés qui sont là pour trouver un amant, pour trouver une maîtresse. Ouais. Il y en a 40% qui sont là pour justement préparer le futur, donc c'est pas pour consommer tout de suite. Et il y en a 72% qui sont là prioritairement parce que ils veulent juste discuter avec quelqu'un pour se changer les idées et parce que c'est vrai que la séduction est difficile quand le partenaire est toujours là, toujours sur notre dos et que quelque part on fait du rattrapage ailleurs sans forcément passer à l'acte. Et moi je trouve ça très sain finalement de se dire que on va aller récupérer la dimension de flirt qui est vraiment propre à la société française de séduction, et quand on sort de chez soi et le boulanger nous fait un peu de la gringue, et qu'on fasse ça en fait à l'extérieur par des applications. Et ce qu'on voit sur Glidden, on le voit aussi sur Tinder, on le voit sur Mythic, on le voit sur tous les gros acteurs du marché, il y a une augmentation du nombre de nouveaux membres, une augmentation du nombre de messages échangés.
Ouais, je souris parce que vous nous racontez ça sur les boulangers parisiens et que vous habitez à New York et à Brooklyn.
Oui, je suis en manque de baguettes.
Vous avez... Pas de double sens, s'il vous plaît, il y a des enfants qui écoutent. En janvier dernier, vous avez publié deux livres, Le sexe selon Maya, recueil de vos chroniques, et Sortir du trou, lever la tête, aux éditions Anne Carrière. De quoi s'agit-il ?
Alors, Le sexe selon Maya, c'est un recueil de mes chroniques au monde, donc c'est un espèce de best-of sur les idées reçues. Donc il y a 40 chroniques plus 10 mini-chroniques que je fais aussi pour le monde dans le journal.
Ouais.
Et le Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière, c'est un gros double essai qui peut se lire dans les deux sens sur la sexualité, où je raconte quels sont les problèmes que la sexualité contemporaine affronte et comment est-ce qu'on peut les résoudre.
Et j'ai appris quelque chose grâce à vous. Vagin et vanille ont la même origine sémantique. Expliquez-nous en quelques mots.
C'est la même origine aussi en latin que la gaine, le fourreau d'une épée.
Ouais.
Et en fait, à partir de cette base commune, vous obtenez vanille parce que ça a une forme comme ça un petit peu allongée, et le vagin qui serait le fourreau pour le sabre qui est le pénis masculin.
Comme disent les Italiens, si non è vero, e ben trovato. Si c'est pas vrai, au moins c'est bien trouvé. Merci beaucoup.
Exactement.
Maya Mazorette, Le sexe
Merci
selon Maya, c'est chaque dimanche dans les colonnes du Monde, et on peut vous voir chaque vendredi dans l'émission Quotidien sur TMC. Merci d'avoir été avec nous depuis Brooklyn. Culture Média qui continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Anne Gillet et les rédactrices en chef de Cuisine Actuelle, le magazine parfait à lire pour s'occuper pendant le confinement. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Après, il faut bien déjeuner, dîner. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis, on va recevoir la chanteuse Émilie Simon pour un projet musical totalement original. Nos indispensables, Laurent Mariotte, qui va nous proposer des idées, non pas de repas, mais d'apéro. Et puis, un jeu vidéo gris. Un jeu étonnant qui joue sur les couleurs et les sons pour reproduire le processus de deuil. Visuellement splendide, Clément Le Saffre y a joué pour nous. Ce sera juste après ça.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Nous sommes avec Anne Gillet, rédactrice en chef de Cuisine Actuelle, le magazine parfait en ces temps de confinement, voire de confit. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino qui va revenir sur les annonces du Premier ministre en matière de culture. Et puis nous recevrons la chanteuse Émilie Simon pour son projet musical lancé en plein confinement et dans nos indispensables, un jeu vidéo très très étonnant.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Anne Gillet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes la rédactrice en chef de Cuisine Actuelle. C'est un mensuel. Vous assurez être le premier mensuel lu par les femmes. C'est quoi votre diffusion ?
Notre diffusion, c'est près d'1 million d'exemplaires vendus chaque année.
Waouh ! Combien de lecteurs ? C'est encore plus, évidemment.
C'est encore plus, évidemment, avec le taux de circulation. Et donc, on arrive à plusieurs millions de lectrices.
Ah, écoutez, je l'ai regardé. Diffusion totale France-étranger, 102 330 et 7,2 millions de lecteurs et d'internautes par mois. La mise en page de la couverture fait référence à l'hebdo Femme Actuelle. Pardon, c'est quoi le positionnement de Cuisine Actuelle en quelques mots ?
Le positionnement de Cuisine Actuelle, c'est un magazine qui s'adresse aux passionnés de cuisine. C'est un magazine qui a vraiment comme ligne de conduite de le fait maison, bien évidemment, et les produits de saison. C'est-à-dire que dans Cuisine Actuelle, on ne cuisine que des produits de saison. On part aussi à la découverte de nouveaux ingrédients, de nouvelles techniques. Nos lectrices sont essentiellement des lectrices. Il y a aussi des messieurs qui cuisinent, je ne les oublie pas. Mais nos lectrices sont vraiment friandes de nouveaux ingrédients, de nouvelles techniques ou de nouvelles utilisations d'un produit qu'elles ont dans leur cuisine et se dire, tiens, je vais faire autre chose aujourd'hui avec mon gaufrier ou mon cuit-vapeur. Mmh. Et puis, un peu de créativité. La cuisine, c'est une passion et c'est aussi une façon de se lancer des défis. défi. Et donc, on a toujours dans le magazine ou sur le site la recette insolite qui va surprendre et la réalisatrice et ceux qui vont consommer derrière.
Alors, depuis le 16 mars, donc après 45 jours de confinement, faut-il le rappeler, la vie des Français et des Françaises a changé parce que les restaurants et les cantines sont fermés. Donc, qu'on le veuille ou non, on est obligé de faire la cuisine à la maison ou alors réchauffer des surgelés. À votre niveau, comment avez-vous ressenti dans votre rédaction ce changement? Qu'est-ce qui se passe pour Cuisine Actuelle?
Ah ben, inutile de vous dire que le taux d'occupation des cuisines françaises, nous l'avons ressenti très fortement. Bon, par la diffusion des magazines, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment, ouais. Mais essentiellement par le site qui fait des cartons absolus, comme on a rarement fait, si ce n'est à Noël. Hein, c'est l'autre période où le taux d'occupation des cuisines françaises est à son plus haut. Ouais. Et donc, on le voit, les gens cuisinent énormément, on a des taux de connexion extraordinaires. Mmh. Et puis, alors, aux surprises, on a même des connexions la nuit.
Ah oui? D'accord.
Avec ceux qui, je sais pas. Alors, soit les gens sont insomniaques, ce que je ne leur souhaite pas. Soit ils se disent, je vais préparer la brioche du petit déjeuner. Donc, comme il y a un temps de repos pour la pâte, je la fais cette nuit. Ouais. Ou alors ils se lancent dans le gigot de 7h et tant qu'à faire, on le met en route pendant la nuit.
Alors, votre site constate une hausse historique de son trafic. Vous l'avez dit. Il y a deux tendances de recettes. Le pain maison.
Ah oui. Alors, je pense que. Malheureusement, Cuisine Actuelle est responsable de la pénurie de farine dans les grandes surfaces.
Oh, dis donc, rien que ça, pourquoi?
Parce que quand on voit que notre recette de pain en cocotte a été, le taux de vision de cette vidéo a été multiplié par 34, que la baguette fait maison fait x15, ouais. Et je ne vous parle pas des gâteaux et des fondants au chocolat et compagnie, donc je pense qu'effectivement le pain fait maison est totalement à la hausse en ce moment, et d'ailleurs on le voit, c'est drôle parce qu'on a à la fois le côté recette et puis le côté parce que Cuisine Actuelle c'est aussi le bon sens et le côté pratique. Donc nos lectrices, elles vont aussi lire les articles qu'on leur adresse sur comment décongeler et recongeler son pain, parce que c'est pas le tout de le faire, mais tant qu'à faire, restons pratiques et ayons toujours du pain dans le congélateur.
Évidemment, alors votre dernier numéro papier, il est daté de mai, il est sorti le 8 avril, j'imagine qu'avec les délais de bouclage, vous n'avez pas pu faire référence au confinement.
Évidemment non. Alors on continue à produire les magazines. Ouais. Toute l'équipe est en télétravail. Nous découvrons les joies et les difficultés du télétravail comme tout le monde en France en ce moment. Mmh. Et donc effectivement pas d'allusion au confinement. Bon. Cela étant. Pour les cuisinières, bon, la difficulté de faire ses courses, c'est plus compliqué, on a moins de liberté pour aller choisir nos produits, etc. Mais on revient quand même toujours à ce qui sont les valeurs essentielles de Cuisine Actuelle, les produits de saison. Donc, si le petit maraîcher du coin s'est débrouillé pour rester ouvert d'une façon ou d'une autre, on peut aller récupérer un panier de fruits et légumes. Ouais. Dans les cuisines, la vie continue.
Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans votre magazine, c'est qu'il y a à la fois des recettes assez simples et d'autres plus complexes avec des mélanges de saveurs assez improbables. C'est pour les aventuriers. Hein. Par exemple, viande et café. Alors, vous proposez du porc laqué à l'arabica, des fruits de mer et rhubarbe.
Oui, alors là, c'est effectivement notre dernier numéro. On s'était amusé à faire un de nos deux dossiers sur des mariages inédits. Ouais. C'est aussi la force de Cuisine Actuelle, c'est de dire, bon, on est dans la tradition, la cuisine française, le fait maison, mais on cherche aussi à donner un peu de créativité à notre cuisine, que ce soit en introduisant un peu de cuisine du monde, ou comme vous l'avez remarqué, le cabillaud au pain d'épices, le cake banane et lard, le porc laqué au café auquel vous faisiez allusion.
Très très bien ensemble, la banane et lard, surtout avec un cake. Je plaisante. Sur la photo, il y a une recette
non,
de
vous allez essayer, vous ne plaisanterez plus
sur
ce
j'ai
sujet.
Tellement de recettes à essayer dans votre magazine avant celle-ci. Sur la photo, il y a une recette de galette au quinoa et au petit pois, et vous titrez « Très jolie ». Est-ce que c'est important, la beauté des plats, à l'heure d'Instagram ?
Absolument, c'est la grande différence qu'il reste encore entre le digital et le magazine. Le digital, vous allez chercher je fais quoi ce soir, ou vous avez décidé de faire une quiche lorraine et vous dites oh là là, j'ai plus trop les proportions en tête, donc
je clique
sur internet pour trouver la recette. Moyennant quoi, j'en trouve 2544, donc laquelle est la bonne, c'est un peu compliqué. En revanche, le magazine garde sa fonction d'inspiration. C'est-à-dire que, et c'est pour cela que nos magazines doivent être beaux appétissant, gourmand, et que nous soignons à ce point nos photos, il faut donner envie. C'est de l'inspiration. Après, on passe à l'acte, mais il faut d'abord inspirer et donner envie. Vous aurez noté au début du magazine, donc nos lectrices sont des gourmandes, et il y a quelque chose d'absolument indispensable, incontournable, c'est l'apéritif. Et donc, tous les mois, nous avons 4 pages d'apéritif, apéritif au sens, bien sûr, apéro-dinatoire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que boire, et on grignote, voire on fait un repas complet, puisque souvent ça s'éternise. Ouais. Et donc, vous voyez ces photos, donc ce sont des photos que nous produisons, que nous réalisons avec nos stylistes, avec nos photographes, et là, on est vraiment dans le plaisir absolu, et la mise en scène, la qualité de la photo est primordiale.
Vous restez avec nous, Angie, d'abord parce que tout à l'heure, à la fin de l'émission, Laurent Mariotte va nous proposer des idées d'apéro. Il trépigne devant ses bouteilles de rosé. Je rappelle que vous êtes la rédac-chef du magazine Cuisine Actuelle. On vous retrouve tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Anne Gillet, rédactrice en chef de Cuisine Actuelle, je vais vous faire un compliment qui va peut-être vous contrarier. Hier, pour acheter le magazine, j'ai fait 2 magasins et 2 kiosques. Il n'y avait plus le dernier numéro de Cuisine Actuelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça se vend bien. La mauvaise, c'est qu'avec le coronavirus, le réassort n'est pas toujours très bien assuré. Et ça se comprend. Le prochain numéro va sortir quand ?
Va sortir début mai.
Alors en revanche, il y a également un hors-série spécial pâtes avec 115 recettes de pâtes. Ça se tire à combien ? Vous le tirez à combien, un hors-série ?
Le hors-série fait partie donc de la diffusion annuelle de 1 million d'exemplaires et est complémentaire du mensuel avec, comme vous l'avez vu, là on est sur un sujet qu'on traite en long, en large et en travers.
Ma question c'était, c'est quoi le tirage d'un hors-série ? Le tirage du mensuel, c'est un peu plus de 100 000 exemplaires. À combien on tire un hors-série ?
Le hors-série vend plus que le mensuel.
Et j'étais très étonné par le prix, vraiment pas cher, pour 100 pages en papier glacé, 2,90 € seulement, je dis bravo.
Aussi on soigne le visuel, le journal doit être attractif, doit être gourmand et donner envie.
Laissez-moi raconter, je vais raconter votre hors-série.
Racontez, allez-y.
Ce qui est amusant, c'est d'abord on voit votre tête, vous mettez la main à la pâte vous également, et vous donnez, je vous cite, votre recette du dimanche soir quand il n'y a plus grand-chose dans le frigo. Alors votre recette, c'est des muffins de macaroni au cheddar et pancetta. Déjà, il faut avoir sous la main des macaronis, du cheddar, de la pancetta. Et ensuite, c'est assez pointu comme recette. Hein. Je vous le reproche pas, mais il faut y arriver.
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est pas pointu, c'est un mélange d'ingrédients auxquels on n'est pas habitué.
Ouais.
Ce sont pas des ingrédients impossibles à trouver. Je suis d'accord avec vous, on les a pas forcément au fond de son placard ou au fond de son frigo. Mais pour autant, et c'est une des caractéristiques de Cuisine Actuelle, que ce soit sur son mensuel ou sur son hors-série, depuis toujours, dans l'historique du titre, nous privilégions toujours l'anti-gaspillage. Aujourd'hui, c'est une notion à la mode. Elle ne l'a pas toujours été.
C'est vrai.
Et à la fin du mensuel, par exemple, systématiquement, nous avons une double page où nous reprenons tous les ingrédients que nous avons, entre guillemets, fait acheter à nos lectrices pour concocter les recettes du mois. Et avec les restes, on leur propose des petites recettes rapides, parfois plus rapide que les muffins auxquels vous faites allusion, je vous l'accorde.
Voilà, et ce qui m'a vraiment plu, là encore, comme dans le mensuel, c'est vous sortez des sentiers battus, vous faites les sauces, évidemment, parce qu'avec qui dit pâte dit sauce, dans la sauce pesto, la sauce tomate, évidemment, mais il y a aussi des sauces vraiment avec le pas de côté, il y a la béchamel à la coco, et plus fort encore, il y a la sauce arrabbiata à la vodka, et je me dis, c'est vraiment le plat familial à faire avec les enfants.
Certainement, tout à fait. Pour mettre de l'ambiance dans la maison, paraît très très bien. Je suis d'accord avec vous.
Et alors vous faites un truc dingue, vous faites des desserts avec les pâtes. Je sais même pas pourquoi, je suis là, je sens pas trop. Des ravioles au chocolat blanc et à la truffe noire. Question basique, quel goût ça a ?
Alors, vous savez, la truffe, quand on a la chance de pouvoir en acheter, ou si on peut pas acheter de la truffe, le plus souvent, on achète des miettes une huile ou un beurre parfumé à la truffe.
Ouais.
La truffe emporte facilement le goût. Donc, heureusement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est cher. Quand on fait ce genre de sujet, ce qu'on veut, c'est effectivement, comme vous l'avez très bien dit, faire un pas de côté, donner des idées nouvelles à la lectrice, tenter des choses. On a aussi des raviolis bleus, des spaghettis bleus dans le magazine.
Et les tagliatelles au cacao.
Donc voilà, c'est tenter des choses. Et je vous garantis que les gâteaux de pâtes en dessert faut le tenter. Et les enfants adorent, bien évidemment.
Angie, les questions perso qu'on pose à tout le monde, comment se passe votre confinement et surtout comment ça se passe votre confinement en cuisine? Pardon d'être indiscret, vous êtes combien chez vous? Est-ce que c'est vous qui cuisinez? Ou est-ce que ça vous rappelle trop le boulot?
Alors pas du tout, quand on travaille à Cuisine Actuelle, on aime la cuisine, donc on aime cuisiner. Et donc pour répondre à la question personnelle, j'ai passé 3 semaines confinée dans mon appartement parisien pour être bien sûr de ne pas être contaminée.
Ouais.
Et depuis, je suis partie m'installer chez ma maman qui vit seule et je m'occupe d'elle, je lui fais les courses. Et la semaine, je télétravaille, donc elle s'occupe de la cuisine. Et le week-end, je ne télétravaille pas, donc c'est moi qui cuisine. Vous savez tout.
Quelque chose qui m'a frappé dans Cuisine Actuelle, même les publicités semblent tourner vers la consommation locale, le Made in France, le bio. C'est un hasard sur ce numéro-là, de ce mois-ci, ou est-ce que vous faites même attention au niveau des publicités? Est-ce qu'il y en a certaines que vous refusez?
Franchement, très peu. Parce qu'effectivement, les annonceurs connaissent l'ADN de la marque, donc ils viennent même pas. Les produits trop industriels, trop transformés, n'ont rien à voir avec l'ADN de Cuisine Actuelle. Donc la question ne se pose pas. Mais quand vous dites même dans Cuisine Actuelle, ça, depuis toujours, Cuisine Actuelle propose des produits de saison qu'on achète à côté de chez soi.
Ouais.
Si on est en ville, si on a la campagne ou dans les villes moyennes. Évidemment, les conditions d'achat sont différentes, mmh. Mais c'est pas nouveau. Ça a toujours été. C'est nouveau aujourd'hui à cause du coronavirus. C'est nouveau depuis quelque temps parce que c'est devenu à la mode, ces nouveaux modes d'achat de produits frais. Mais dans Cuisine Actuelle, ça fait partie du magazine.
Merci beaucoup, Angie Lay. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Cuisine Actuelle. C'est en vente partout, c'est en tablette. Vous avez aussi une application, on ne l'avait pas dit, et un journal et une application de plus en plus suivie en ces périodes de confinement. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.